Un tango, une danse, un baiser et un sourire.
Par les temps qui courent,
ça y est, plus 21h.
Marie Richeux.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
Certains réveils nous font douter d'où l'on se trouve, qui l'on a aimé dans le sommeil, quel visage éclairait ses yeux verts et de quel vert exactement étaient les plantes magiques qui nous faisaient de l'ombre. Dans les quelques minutes avant que n'apparaissent les contours précis, tout est possible. Alors reviennent des épaules en forme de jardin, un âpre goût d'attente, un chagrin d'on ne sait où. Il semble que vous écriviez, composiez dans cet intervalle-là des chansons qui transportent ensuite avec elles la moiteur d'une sieste de l'après-midi. Bonsoir Arthur Teboul.
Bonsoir.
Et bonsoir Sébastien Wolf.
Bonsoir.
Vous êtes deux membres du groupe Feu Chatterton. Généralement, vous arrivez à l'heure. Votre disque Loiseleur sort ces jours-ci, donc il sera à l'heure le 9 mars. Il est sorti chez Barclay. Vous donnerez dans la foulée une série de concerts. Soyez les bienvenus.
Merci.
Mais où est-ce que t'iras? Encore dans ce petit rad, mais où est-ce que t'iras? L'heure est avancée. Ça y est, voilà, je suis raide. Ça y est, voilà, ça y est, voilà, ça y est, voilà. Encore dans ce petit rad, l'heure est avancée. Mais où est-ce que t'iras? Encore dans ce petit rad, l'heure est avancée. Mais où est-ce que t'iras? Et ma hargne se dilue dans un océan de quiétude et de liquide. Toi que je vois dans la glace, dis-moi, qui es-tu? Dis-lui. Ça y est voilà, ça y est voilà, ça y est voilà, je suis arrête. Ça y est voilà, ça y est voilà, ça y est voilà, je suis arrête. Ça y est voilà, ça y est voilà, ça y est voilà, barre-toi. Et votre mon bout de, je fus comme un baiser. Sur mes lèvres frileuses, et mon cœur empesé. Cette nuit, dans cette nuit-là, où vous m'avez eu. Le rouge à ma honte, s'y est beaucoup mieux. À mon verre de vin, que drapeau français. Tous les amirals, ça dégénère. Moi, il ne faut pas cadencer.
C'est un extrait de l'album Loiseleur qui s'appelle L'Ivresse et je le choisis parce qu'il a déjà parce qu'il est très beau et aussi parce qu'il est à un endroit musical un tout petit peu ailleurs ou un petit peu différent. Par exemple, le départ est vraiment beaucoup plus proche d'un flow de hip-hop, d'une prod de hip-hop avant que ça ne bascule. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez pensé, ce morceau?
Ouais, en fait, c'est un morceau qui peut paraître bizarre dans notre musique, parce que les gens nous ont peut-être découvert via des morceaux plus rock, avec des guitares notamment. Et c'est vrai que, peut-être on le cachait, mais on est très influencé par le hip-hop. Et on est très impressionné aussi par les producteurs de hip-hop. On le dit souvent, mais les producteurs de hip-hop façonnent le son comme rarement des gens le font aujourd'hui en musique. Et c'est vrai que quand on écoute les productions, vraiment le détail dans le son par exemple d'artistes comme PNL, on se dit mais comment ils font pour faire sonner les choses comme ça? Et c'est vrai que sur ce titre, on voulait montrer que aussi ça nous plaît et essayer de mélanger nos influences avec le hip-hop. Et là par exemple dans ce titre en particulier, si on y prête une oreille attentive, la batterie, donc qui peut être traditionnellement une boîte à rythme dans le hip-hop, là c'est une vraie batterie qui est jouée par notre batteur, mais qui est jouer via une MPC. Alors, je vais pas rentrer dans les détails techniques.
Bah, mais si, quand même, il faut dire qu'une MPC, ça prend beaucoup moins de place qu'une batterie, par
ça
exemple.
Ça prend moins de place qu'une batterie, mais pour le processus exact, le batteur, ce qu'on a décidé de faire avec notre réalisateur Sammy Osta, c'est d'enregistrer le batteur et après de découper les patterns, de les rentrer dans la MPC et le batteur derrière rejoue à la main les patterns qu'il a lui-même déjà joués. Pour mélanger comme ça une approche moderne, celle du hip-hop, de la MPC, et une approche plus traditionnelle, celle de la batterie, avec un jeu qui est vivant et qui a ses fragilités, on l'entend dans le titre.
Et qui est plus lourde que la batterie que vous faites jouer habituellement, en tout cas ce qu'on avait entendu jusqu'à maintenant, qui était plus rock, voire punk. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'alourdit. Mais c'est intéressant que vous disiez tendre l'oreille aux productions de hip-hop, d'une certaine manière, comme s'il donnait le ton. Du son très contemporain, est-ce que vous diriez cela?
Ouais, aujourd'hui, depuis, disons, la musique assistée par ordinateur, tout le monde peut faire de la musique dans sa chambre. Et c'est comme ça qu'on a commencé aussi, en fait. Donc, il y avait une guitare après de l'ordinateur, mais cette composante hip-hop, elle était là non seulement dans nos curiosités, dans ce qu'on aimait, dans nos goûts, mais aussi dans ce qu'on faisait. Au départ, notre premier groupe, c'était presque du hip-hop, puisque moi je chantais pas du tout et je parlais. Donc depuis depuis qu'on fait de la musique ensemble, on est dans cette culture de la musique assistée par ordinateur. Et aujourd'hui, c'est quoi, 10 ans après, 8 ans après, on voit que c'est ce qui a tout infusé dans les productions. Mais si ça a marché, c'est parce que
si ça a marché, le hip-hop ou Fochette Artem?
Non, le hip-hop. Si ça infuse tout, c'est parce que certains le font très très bien, et notamment, je pense, vous parliez de la batterie plus lourde. Je crois que ça vient surtout des subs, des ultra-basses, des basses.
Des infra-basses, oui.
Des infra-basses, donc tous les sons qui sont dans les bas. Et ça, c'est une chose qui existe que depuis la musique électronique. Parce que pour produire un son de qualité dans les très très bas, il faut le simuler, ou bien il faut avoir des techniques de production électronique. Et c'est surtout ça, nous, qui nous plaît dans le hip-hop. C'est comment, avec peu de pistes, et surtout des pistes basses, on arrive à créer une impression de pesanteur, de moiteur, de lourdeur, et en même temps de groove.
Ouais, il y a, enfin, ça, on peut parler longtemps de ça. Peut-être, je sais pas si.
Bah, on a une heure, ça tombe.
Ok, c'est ce que je me disais. Du coup, non, mais c'est vrai que quand on écoute les morceaux de hip-hop, mais c'est pas si récent. On écoute par exemple un morceau de Dr. Dre Still, qui est un morceau très connu. Et ben, c'est des instruments qui sont joués. Donc c'est vraiment enregistré. C'est pas électronique. La batterie, c'est une vraie batterie qui est parfois superposée avec un supplément de kick, donc c'est la grosse caisse, pour lui donner plus de puissance. Mais si on écoute, il y a très peu d'instruments. Il y a une basse, une batterie, un piano.
Mais c'est une intro entêtante et parfaite, quoi.
Mais le son est tellement bien travaillé que il y a une puissance. On le met à n'importe quel endroit, les gens vont bouger, vont danser. Et parce que Dr. Dre façonne le son avec une précision magnanime, enfin, avec une forme de... C'est vraiment un perfectionniste, et il va utiliser des machines qui sont pas forcément des machines très récentes. Il peut utiliser des compresseurs anciens, mais il les utilise pour faire sortir ce qui pour lui est la puissance. Et le hip-hop, ils ont réussi à mettre de la puissance dans le son. Et c'est ça qui fait que la musique hip-hop marche aujourd'hui. Il y a une très grande puissance dans le son, et en même temps, on entend tout le texte. Et ça, c'est le futur de la chanson française. C'est réussir à donner une forme de grandeur, tout en laissant la voix d'Arthur, par exemple, c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce disque, et essayer de lui laisser sa place, tout en ayant une forme de grosse architecture au niveau des fréquences sonores qui sont données par la musique.
Et aussi des atmosphères, des qualités de son, des convocations de certains univers, puisque c'est assez inspirant ce début de discussion sur le hip-hop, on peut rester. C'est un mouvement qui a fait feu de tout bois et qui continue de faire feu de tout bois. Au départ, en faisant des collages avec des morceaux, des bouts de vinyle, etc. Et puis aujourd'hui, on le voit en absorbant n'importe quel son qui soit venu de l'extérieur ou qui soit créé sur l'ordinateur. Il y a quelque chose dans l'Oiseleur qui fait que dans un morceau même, dans l'architecture d'un morceau même, on peut être vraiment à peut-être 12 endroits différents.
Ouais, mais c'est vrai que encore, je pense que encore une fois, le hip-hop est aussi si leader, on va dire, fer de lance du reste de la musique. Aujourd'hui, c'est parce qu'il se permet tout. ce que tu dis, c'est qu'il est capable d'intégrer des sons de, qui viennent de n'importe où, de mettre des effets qu'on n'oserait pas nous-mêmes utiliser sur la voix, sur des instruments. Et la liberté qu'ont les gens qui produisent le hip-hop, et pour nous, c'est vraiment, c'est inspirateur. Et c'est dans ce
et
disque,
ça vous en donne.
Ça nous en donne. Alors, c'est vrai que dans les années 70, dans le rock, il y avait cette liberté-là. Mais peut-être elle s'est perdue. Voilà, pendant les années 90-2000. Et c'est vrai que aujourd'hui, peut-être le hip-hop et la production dans le hip-hop retrouve la liberté qu'avait le rock dans les années 70. Alors c'est un peu les deux mouvements qui nous influencent énormément. Le rock des années 70 et le hip-hop des 20 dernières années, on va dire. Et encore plus d'aujourd'hui, je pense.
Pour terminer sur les peut-être bases des composantes principales de ce disque, avant qu'on en vienne de plonger plus avant dedans, il y a un synthétiseur qui est extrêmement présent. Il me semble beaucoup moins que sur les morceaux précédents. C'est lequel? Il vient d'où? Qu'est-ce qu'il fait?
Ouais, c'est le Korg 900, c'est vrai?
C'est une blague.
Non, pas du tout. T'as remarqué?
Il est vraiment très puissant, ce son.
Mais il y a le Korg 900, je pense que plus que sur le premier disque, il y avait un synthétiseur qui était un peu le synthétiseur, c'était le SH-101, qui est un synthétiseur dans les basses.
Mais là,
il y en a un qui a un son qui est très particulier, qui a été utilisé par Tangerine Dream, par exemple, et qui a été apporté par notre bassiste, qui n'est pas là, mais qui pourra en parler même plus que nous. Il a réussi à le trouver un peu par hasard, et c'est vrai qu'il l'a amené après la phase de composition, presque. Il est arrivé au moment où on était en train de jouer les morceaux. Donc, il y a une première phase où on écrit, on compose, et puis après, il y a une phase où on va jouer la pré-production avant d'aller en studio. Et là, il l'a amené, et beaucoup de mélodies qu'on avait écrites pour d'autres instruments, elles collaient bien avec cet instrument. Et du coup, on l'a utilisé. Il a un côté un peu vieillot, peut-être, dans le son, mais il est assez, en même temps, moderne. On a l'impression qu'on est dans l'espace.
Justement, parce qu'il n'a pas la moiteur dont vous parliez tout à l'heure, Arthur Teboul. Je trouve que vraiment, il est à un endroit, il est très, très, très important dans ce que vous avez créé avec ce disque-là.
C'est ce qui nous plaît, en fait, avec ces synthétiseurs, qui sont les premiers, disons, c'est quoi, dans les années 70, c'est qu'ils sont à la jonction entre le rock et le hip-hop d'aujourd'hui. Et les synthétiseurs, et ils sont à cette jonction-là qu'on aime, qui est entre le synthétique et le chaleureux et l'organique.
Ouais,
parce qu'en fait, c'est bobiné à la main,
c'est
des composants analogiques. Donc c'est de l'électronique, mais l'électronique avec des circuits qui chauffent. C'est pas pareil que des sons simulés sur ordinateur qu'on aime aussi parfois. Mais on aime bien les synthétiseurs analogiques pour cette raison, qui sont à la fois froids et chauds, comme le morceau L'Ivresse, où on a voulu à la fois avoir des boîtes à rythme et des coupés dans la façon de construire le morceau de manière assez froide et mécanique, le groove, mais en y ajoutant aussi des samples de batterie joués et maladroits et des riffs de clavier pas édités. Je veux dire, aujourd'hui, quand on veut que ce soit bien dans le temps, on réédite chaque note de clavier qui peut
être
jouée.
Pour être sur le clic et
pour être... Nous, on aime bien mélanger ces choses-là. Et le synthé, les beaux synthés ont ça en eux directement. En fait, le 900, le Korg dont on parle, c'est un tout petit clavier. Franchement, il ne paye pas de mine. C'est pas un truc...
Moi, quand même, ouais. Non, mais ici, il est beau. C'est celui d'Antoine.
Ouais,
mais il est quand même assez gros.
Non, mais il est assez beau, mais je veux dire... ce qui marche dedans, c'est pas comme un Juno 60, on a entendu parler.
C'est pas un
tout-terrain royal de l'histoire du clavier. Mais ce qui est beau, c'est quand il s'est mis à le jouer, simplement quand il joue, il y a des claviers comme ça qui vous émeuvent tout de suite. Et il s'est mis à jouer, il y a des réglages possibles, plein de réglages, parce qu'un synthétiseur, ce qui est chouette, c'est qu'on peut simuler de nombreux sons. Mais il y a une, je sais pas, il a réussi à faire quand il se mettait à jouer des lignes, on trouvait ça émouvant, ça nous procurait des émotions particulières. Et voilà pourquoi on l'a utilisé, c'est qu'il est, il est là, quoi, entre les deux.
Mais c'est vrai qu'il va bien avec l'ambiance du disque, c'est vrai que c'est...
Enfin, vous dites vraiment... ça, mais il s'est imposé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas allé le chercher en disant, toi, tu vas bien aller.
Mais c'est toujours comme ça pour nous, c'est comme ça. Mais c'est vrai que, rétrospectivement, là, quand on en parle, je me rends compte que ce son-là, il évoque bien le disque, une forme de douceur et en même temps de la mélancolie, une mélancolie profonde, mais assez florale. Et je trouve qu'il va bien, il va très très bien avec le disque. Mais c'est vrai que j'y avais jamais pensé en fait avant maintenant.
Votre histoire est celle de 1000 jeunes gens. Vous n'avez rien pu faire que vos maudits vers, et à quoi sont-ils bons, je vous prie? Je vous parle en père, moi. À quoi sont-ils bons? Un bon anglais doit être utile au pays. Voyons un peu quelle idée vous faites-vous de nos devoirs à tous tant que nous sommes. pour elle, je boirai le calice jusqu'à la lie. Je crois les comprendre, my lord. L'Angleterre est un vaisseau. Notre île en a la forme. La proue tournée au nord, elle est comme à l'ancre au milieu des mers, surveillant le continent. Le roi, les lords, les communes sont au pavillon, au gouvernail et à la boussole. Nous autres, nous devons tous avoir les mains au cordage, monter au mât, tendre les voiles et changer les canons. Nous sommes tous de l'équipage et nul n'est inutile dans la manœuvre de notre glorieux navire. Pas mal, quoi qu'il fasse encore de la poésie, mais en admettant votre idée, vous voyez que j'ai encore raison. Que diable peut faire le poète dans la manœuvre ?
Je le pousse aux dorifères. Tu sais que le monde t'ignore, mais tu t'en fiches. Le spectacle te laisse indifférente. Fade comédie, mais tu t'en fiches. Tu es sombre et belle, mitige comme dit. Mais je te chite petite. Tu as le trait de l'interdit. Depuis ta fenêtre, le monde est monotone. Passe vite le temps qui n'est pas, passe vite le temps qui n'est pas coutumier. Pour les deux bleus tes yeux ont la noirceur et la brillance des dessins mystérieux. La beauté scandaleuse de la violence. J'ai beau hurler hors les murs de ta cité, tu ne vois qu'une forteresse dans le miroir. Où les enfants se reconnaissent. Où les enfants se reconnaissent. Les enfants se reconnaissent. Et là derrière la fenêtre.
J'ai essayé de lire le plus vite possible pour tenir sur l'introduction du morceau, quelque chose que vous avez posté récemment, m'a dit Romain de Becdelièvre sur les réseaux sociaux, un extrait d'une pièce de théâtre écrite en 1834 par Alfred de Vigny, qui s'appelle Chatterton, et où la question de l'utilité du poète est clairement remise en question, et la jeunesse qui ne peut faire que des vers et qui est jaugée par les pères, on va dire. Pourquoi avoir posté ça ?
Alors, il faut savoir par qui elle est remise en question dans, ouais. dans l'extrait. Et l'utilitaire, le rapide, l'argent.
En temps de guerre.
Aussi. Remettront toujours en cause le poète. Et c'est marrant de parler d'en temps de guerre parce que j'y reviendrai, mais dans le disque, il y a un poème d'Aragon qui parle de ça. Du malaise qu'on peut ressentir à vivre la douceur alors même que la guerre est partout. Et qui remet en question le poète là dans ces vers-là ?
Beckford.
Ouais. C'est un capitaine, c'est un industrieux. Moi j'aime bien l'idée que les vers sont solubles mais effervescents. Alors, peut-être qu'il y a une forme de dérision, un presque rien, mais il y a une ébullition aussi. Il y a du mouvement, il y a de la joie, de l'excitation. Ça peut suffire. L'utilité du poète, elle peut être là seulement. Elle peut suffire à elle-même. D'ailleurs, il n'y a bien que les critiques qui voient le poète comme un jeune homme, forcément. La poésie est partout, elle peut durer toute une vie. Elle aide à garder sa jeunesse. Accuser de quelqu'un de jeunesse parce qu'il écrit des vers, ça prouve bien qu'on n'a pas compris ce que c'est. Et pour revenir à la guerre, ce poème d'Aragon est très très beau, il s'appelle Zone libre. Il raconte un été 42, si je ne me trompe pas, quand Aragon est en zone libre, et il profite du vin, de la douceur de l'été, mais il sent qu'il y a un malaise à le vivre. Parce qu'ailleurs, au front, c'est la guerre. Mais là, il devient utile, parce qu'en le racontant, on est 60 ans plus tard. Son malaise à lui, grâce au vers, devient un témoignage de l'intime, de la mélancolie. Alors, voilà, il a transformé sa peine, il a transformé sa douleur, il a transformé sa gêne en quelque chose qu'il peut partager avec les autres, une amulette. Alors, c'est ce qu'on aime dans les chansons aussi. On vit parfois une tristesse, un adieu, un deuil, parfois une frustration. Et avec le groupe, on essaye d'en faire des chansons pour se dire que de la perte d'un être cher ou d'un désamour, il peut rester une pierre, un collier, un bijou, quelque chose qu'on taille et qu'on partage.
Et pour aller plus loin, puisque vous évoquez Zone Libre, pas par hasard, puisqu'il existe sur ce disque-là, ça fait aussi que voyageant dans le temps, le reprenant à votre compte, vous lui donnez une vie nouvelle et vous faites circuler autrement ces vers-là et ce malaise-là. J'imagine que ce poème, il n'est pas choisi par hasard. Qu'est-ce qui dit de la guerre est partout et d'un malaise qui serait de ressentir une douceur quand la guerre est partout?
En fait, ça fait un moment qu'il vit en nous, ce poème. On l'a aimé tout de suite parce qu'il parlait d'un sentiment qu'on ressent souvent, qui est une douleur sans souvenir, d'où elle vient, une sorte de soldat, on dirait, encore que la soldat brésilienne est un peu doucereuse.
Une mélancolie.
Ouais, une mélancolie, disons ça. Et il y a un vers qui est très beau dans ce poème d'Aragon qui dit et la cendre blanchit la braise. Et ça, c'est un sentiment qu'on aime bien quand on constate qu'en nous-mêmes la cendre blanchit la braise, c'est-à-dire que quelque chose s'éteint un peu de l'ardeur et de l'ardeur du souvenir. C'est un moment dans la vie où on se sent coupable, à la fois de laisser partir quelque chose. Je pense à ce moment-là où quelqu'un n'est plus là, voilà, et on n'y pense plus comme les premiers jours. On s'en veut de pas faire vivre sa mémoire avec autant de vivacité et d'intensité. Et en même temps, on est soulagé parce que la vie va reprendre son cours. Et la cendre blanchit la braise. C'est ce qui est beau dans ce poème-là. Et de parler de cette guerre aussi, pourquoi il vivait longtemps en nous, je reviens un peu, je me perds souvent avec les poèmes, c'est que cette guerre de 42, c'est étrange, on n'a pas connu cette guerre là c'est sans doute la plus cruelle qui est connue notre pays, nos parents, nos grands-parents, etc. Et pourtant, quand on lit ce poème, on la ressent, c'est-à-dire ce témoignage, il n'est pas un témoignage du passé, il est un témoignage pour le présent, c'est-à-dire attention, la guerre peut revenir, la guerre peut-être est déjà là, elle rôde quelque part. Et si on a voulu le mettre dans ce disque-là et pas dans le premier, c'est qu'entre-temps, on a vécu aussi en France des attentats, des douleurs qui nous ont fait ressentir intimement une menace. C'est-à-dire que la pérennité d'un siècle était finie. Et cette menace-là, d'une certaine manière, nous, on n'est pas frontal dans notre manière citoyenne de lutter ou d'affronter la violence, mais on s'est dit que le meilleur moyen, c'était de faire des chansons qui soient comme un refuge, un endroit de tranquillité, de calme, de sérénité. Et ce poème d'Aragon, Zone Libre, était comme un totem. Il symbolisait ça. Fading, de la tristesse oublie, le bruit du cœur brisé faiblit, et la cendre blanchit la braise. Ça pourrait représenter très bien tout le disque qu'on a essayé d'y mettre.
D'ailleurs, c'est pas un hasard, puisqu'il me semble que lors de ces événements violents, vous n'étiez pas au cœur de la ville, vous n'étiez pas à Paris, donc vous étiez peut-être vous aussi dans une forme de zone libre.
Exactement.
Même si les choses ne sont absolument pas comparables.
Non, mais
vous étiez aussi à un endroit d'éloignement, que dit beaucoup le disque. Une manière d'être pas exactement tout proche, alors pas proche de ses amours, pas proche d'un endroit brûlant, pas proche de la guerre éventuellement, quelque chose d'un tout petit peu plus loin.
Et enfin, après, je voulais rajouter des choses sur le poème Zone Libre pour aller un peu plus loin. C'est vrai que je pense qu'on n'est pas les seuls à ressentir, sans vouloir, d'une manière ou d'une autre, d'avoir été loin à ce moment-là ou de se sentir impuissant, voilà, face à certaines situations, démunis. Et c'est vrai que ce Zone Libre, ce poème, c'est vraiment l'exacerbation du sentiment d'Aragon face à cette impuissance qu'il a et cette une forme d'absence aussi de choix. Il sait pas ce qu'il doit faire et il s'en veut, mais d'un autre côté il sait qu'il est du bon côté entre guillemets. Et c'est vrai que nous je pense qu'on est toute une génération à voir qu'il y a énormément de problèmes dans notre société, qu'il y a une menace qui grouille, il y a eu effectivement les attentats, il y a la guerre un peu partout dans le monde, mais on sait pas ce qu'on peut faire. Et c'est vrai que ce sentiment d'impuissance est très fort. Et dans cette chanson, on a essayé de le mettre. Et quand tu nous parles de notamment des attentats de Charlie Hebdo, donc là la situation dont tu parles, c'était en 2015, en janvier 2015, quand il y a eu les attentats à Charlie Hebdo, on était tous les cinq en train d'écrire le premier album.
Résidence à la campagne.
Et c'est vrai que on a été comme tous les Français, je pense, abasourdis par ce qui s'est passé. Et on était complètement démunis, on savait pas quoi faire. Là, on s'est forcément arrêté de travailler, on a décidé de revenir à Paris et d'être aussi avec les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est quand les attentats au Bataclan ont eu lieu en novembre, là, on était loin, mais on était sur scène. Et bizarrement, on a senti tout d'un coup qu'on avait un rôle plus important, on s'est senti plus utile presque d'être sur scène et de continuer à être sur scène et de continuer à partager des choses avec les gens. Le lendemain, on a décidé de faire un concert, de faire le concert qui était prévu. Et même si le Bataclan est une salle dans laquelle d'ailleurs on va jouer pour le lancement de l'album, mais qui est une salle qui est très proche, on a grandi pas très loin du Bataclan, on connaît plein de gens qui travaillent au Bataclan et qui travaillaient au Bataclan. On s'est senti tout d'un coup, on a trouvé un sens à ce qu'on faisait. Et il y a vraiment ces deux moments, je pense, pour nous aussi, dans le groupe, c'est assez personnel, mais c'est les attentats de 2015, on s'est dit, mais on sert à rien. Enfin, pourquoi on est là, on est en train de faire des chansons, à se regarder dans le miroir et à se dire que ce qu'on est en train de faire, c'est intéressant.
On était en train de répéter des morceaux, notamment Boeing, on parle d'oiseaux et choses comme ça. On pouvait pas travailler, on se disait vraiment... C'est marrant parce qu'on en revient à cette question qui... nous a jamais posé de l'utilité du poète.
Bien sûr, parce que c'est quand même pas un hasard. Vous développez quelque chose à partir de ce texte du 19e siècle que vous postez sur les réseaux.
Mais c'est tout ça est un peu fortuit, un peu accidentel.
En fait, on n'y a pas pensé. Hein. Là, vraiment, c'est maintenant qu'on fait les liens. Là.
Ça tombe bien, on est là pour ça.
Ouais, c'est chouette. Mais c'est marrant, parce que c'est vrai qu'en janvier, on se dit, mais alors, la musique, ça sert vraiment à rien. Allons, retournons à Paris, allons voir comment on peut s'engager socialement, de façon citoyenne. Et ce qui est délicat, c'est que tout est si complexe qu'on ne trouve pas les armes pour le faire. Et le Bataclan, ça a été une attaque très directe contre l'idée même de dérision, de légèreté, de musique. C'est notre métier. Et malgré nous, on a eu un rôle plus grand. Il suffisait de continuer à faire ce qu'on faisait pour être utile.
Est-ce qu'il y a d'autres moments, en dehors de ces épisodes tragiques, où vous avez dû justifier auprès de vous, auprès de vos copains, auprès de votre famille, auprès de je ne sais pas qui, de l'utilité de s'engager pleinement, c'est-à-dire répéter des heures dans un garage, puis parfois dans un studio un peu plus confortable, de la musique, écrire des chansons, faire de sa vie quelque chose qui a à voir avec l'art?
Bah. On s'est pas trop posé la question, en fait.
Non, vous-même peut-être, mais.
Non, mais
de
par
l'extérieur.
Par chance, je pense que nos parents, notre famille ont été bienveillants et ont accepté. Je pense qu'on n'est pas, non, on pourrait pas dire que on a dû se battre contre une force, notamment ça peut être familial, puisque c'est ce qui arrive, c'est ce qui est la première
opposition.
Résistance à toute liberté, et ben c'est vrai que là elle n'était pas du tout, au contraire ils ont accepté et aussi ils nous ont fait confiance parce que ils savaient que ça allait pas être facile, mais j'ai l'impression que ils ont senti qu'on avait cette démarche là, c'était pas par hasard qu'on le faisait, donc ouais, merci à eux.
On aime mieux l'irrévérence que le cri, on aime mieux le quand on aime mieux la subversion que le combat. Et je pense que ça se ressent. On est bien élevé, on a de bonnes manières. Donc cette forme de colère qu'on a en nous, très fort pour plein de raisons, pour la dompter, pour qu'elle nous obscurcisse pas la vue et qu'elle nous nourrisse. On la met dans les chansons, souvent en seconde lecture, souvent de manière codée. Mais je pense que sans cette colère, sans cette c'est une forme de rage, en fait, qui est motrice. C'est un regard sur le monde qui nous dit que les choses pourraient être autrement. Eh ben, on n'aurait pas eu ce même engagement dans nos chansons. Il y a à la fois la joie de faire de la musique ensemble, qui nous guide depuis très longtemps, et qui a grandi, en fait. On a commencé à faire ça le dimanche, puis le samedi et le dimanche, puis tous les soirs de la semaine. Puis un jour, on va faire ça tous les jours, en fait. Ça, c'est juste un plaisir. Mais il y a aussi quelque chose qui est... on ne peut pas s'exprimer autrement. Enfin, parce qu'on est poli, tout ce qu'on a envie de dire qui pourrait déranger, on le met dans nos chansons.
Le dandysme de ce groupe-là, c'est un dandysme de la grandeur humaine. Il est parti au fond du mouvement stendhalien de l'énergie. Et il est parti par là d'une philosophie de l'homme qui a été beaucoup moins vulgarisée et qui n'a été célébrée que récemment, en somme depuis Bergson, de la philosophie de Maine de Biran. Il y a au début du 19e siècle un individualisme français qui considère que l'homme doit aller jusqu'au bout de sa personnalité, mais qu'il ne doit pas le faire, comme le croient les romantiques, par une espèce de brouhaha et de diffusion désordonnée et agitée de lui-même, mais qu'il aura d'autant plus de force de percussion qu'il sera davantage se discipliner. Et l'énergie, qui est à la fois un principe de feu et qui est en même temps un principe de discipline et de maîtrise de soi, leur apparaît l'image même du type moral qu'ils cherchent à réaliser. Je voudrais justement vous indiquer certains passages très curieux où Baudelaire, là, reflète non plus son propre sentiment et n'essaie pas de se justifier dans son comportement personnel en se couvrant du manteau du dandysme, mais où il analyse le vrai dandysme qu'on lui avait enseigné. Il dit qu'il est nécessaire de fortifier la volonté et discipliner l'âme.
Et en fait, on a coupé l'archive parce que ça a continué comme ça pendant de très très longues minutes d'une explication avec beaucoup de isme pour essayer de définir le dandysme. C'est une archive de 1965, France Culture, c'est René Huyghe. À vrai dire, Romain de Bec de Lièvre, qui fait partie de l'équipe de Par les temps qui courent, a dit « Bon, si c'est ce soir qu'on doit trancher sur la question « Feu Chatterton sont-ils des dandys ?» Autant mettre les, voilà, autant le faire. Personnellement, je ne savais pas exactement que c'était une image qu'on vous collait beaucoup, un terme que peut-être vous utilisiez vous-même. Alors quoi? Peut-être au vu de ce qu'on vient d'entendre.
Je trouve ça très, très chouette, justement, d'avoir écouté ce petit extrait. Parce que ce qui est très, très, très complexe, en fait, avec le dandysme, c'est que c'est une forme changeante et insaisissable qui n'a que des représentants et pas de culte, en fait. Et on pourrait même dire que c'est un mouvement qui est circonscrit à une époque. Début 20e, fin 19e, quand l'aristocratie déchoit et que la bourgeoisie arrive. Et ses derniers représentants sont le crépuscule d'une société qui va donc mourir. Mais le dandysme n'a que des représentants. Baudelaire, Balzac, Barbey d'Aurevilly, Wilde. Et chacun dans ce courant est lui-même très singulier. Et chacun dans sa singularité est lui-même plein de contradictions. Donc c'est extrêmement délicat de définir ce qu'est le dandysme. Et l'extrait qu'on a entendu, qui en effet est un peu complexe, ça demande une exigence dans la pensée, dans le déroulement de la pensée. Le dandysme est ça en même temps, des plis et des replis d'un tissu en mouvement. C'est pour ça que c'est si difficile de le saisir. Est-ce qu'on est dandy? Je sais pas, mais c'est vrai que l'écriture et l'attitude a été nourrie, le style, pour ma part en tout cas, a été nourri à l'adolescence par la lecture de ces grands dandys. Il n'y a pas de dandys en fait, il y a des œuvres de dandys.
Comme les Dada quoi, on est presque.
Ouais, exactement. C'est un mouvement qui, peut-être comme Dada, se pose surtout la question de lui-même. C'est pour ça qu'il dit « vivre et dormir devant un miroir », disait Baudelaire. Et il voyait ça comme un héroïsme. Aujourd'hui, c'est devenu banal avec Instagram et on fait que ça, se regarder, mais pas de la même manière. C'est-à-dire, c'est vivre et dormir devant un miroir avec l'exigence que ça aurait de chaque seconde quand on se regarde, se demander qu'est-ce qu'on regarde, pourquoi on le regarde. Ce que j'aime beaucoup dans le dandysme, c'est l'ambivalence à la fois de se vouloir glorieux, d'être très très orgueilleux et la seconde d'après être plein d'autodérision. On pourrait dire que l'ironie est une des grandes armes du dandysme pour cette raison.
Et l'exigence, si on en croit cette archive-là, c'est-à-dire qu'une exigence extraordinairement appliquée à soi-même, une discipline, on entendait, autant qu'appliquée au monde extérieur. Si c'est vivre et dormir devant un miroir, c'est pour quoi? C'est pour une exploration de soi? C'est pour une exploration de soi, donc, du monde?
Pour être sûr qu'on se comporte bien, en tout cas par rapport
à... Décidément, faut être poli.
Non, c'est pas de la politesse. C'est à la hauteur des ambitions et des exigences qu'on a envers nous-mêmes et envers le monde. Je pense que le mot dandysme aujourd'hui, le problème, c'est que la description qu'on a entendue pourrait nous plaire. Mais souvent, aujourd'hui, il est vu comme simplement quelque chose de vestimentaire. En gros,
c'est même pas une allure, un vêtement. C'est même pas une allure. Hein, on peut avoir un dandy en tablier, justement. Ce qui est très puissant, Brummel, qui est le maître dandy, justement pour n'avoir pas eu d'œuvre que sa propre vie, c'est le seul dandy qui peut témoigner que de son mode de vie. Oui, ça confine parfois à l'absurde, mais cette absurdité n'est-elle pas notre vie, qui n'a pas de sens? Et vivre et dormir devant un miroir, c'est ordonner ce chaos, et une fois qu'on l'a ordonné, regarder cette petit monticule de brindilles et dire que ça ne servait à rien. C'est la gloire éprise de sa propre ruine. Mais c'est comme un manuel de sagesse. Se rappeler la vanité sans tristesse. Et eux, ils ont choisi pour eux, je ne sais pas qui sont eux, mais on peut dire que certains dandys ont décidé, devant l'absurdité de la vie et sa fin, de la vivre comme un jeu autour des règles. Donc oui, le dandy est poli, parce qu'il ne cherche pas à rompre le bâton, mais à le tordre.
Ce qui n'est pas exactement le cas de Loiseleur, pour en revenir à votre disque, c'est-à-dire que l'absurdité, elle n'est pas vécue sans tristesse. Et la séparation non plus, et l'éloignement dont on parlait tout à l'heure non plus, et le très grand doute. Il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'on est là? Est-ce que je vois ce que je vois? Est-ce que je suis en train de vivre ce que je vis dans ce disque-là? Les choses, elles sont encore plus que dans le disque précédent, incertaines, très floues, et elles sont toujours teintées, vous parliez tout à l'heure de mélancolie, voire d'un chagrin sourd. Donc vous n'êtes pas du tout absous de la tristesse qui pourrait être liée à l'absurdité de l'existence. En tout cas, dans ce disque-là, elle est très présente.
Bah, on a essayé de... Le premier album, pour nous, est une mélancolie assez sombre. Et là, en fait...
Elle est solaire.
Pour nous, oui. C'est-à-dire c'est un chagrin qui trône sur une pierre, qui va sécher au soleil, quoi. Et en effet, c'est que des variations, ce disque, autour de l'absence. De quelque chose de perdu, du paradis perdu, de l'odeur perdue, du fruit mangé. Mais dit comme ça, ça pourrait être une liste terrible de tristesse, une somme alourdissante comme ça. Mais pour nous, pas du tout, c'est accepter justement, revenons au miroir, dire, ah, on a connu ce parfum, on a connu ce fruit, on a connu cette couleur, on a connu cette étoffe. On les a au moins connus, donc ils continuent de vivre en nous. C'est mieux que rien. Ça nous suffit. Donc ça fera un beau souvenir. Donc comme on a accepté cette idée d'avoir au devant de soi le passé, qui jamais ne passe, on n'a pas eu peur de le montrer, de le dire à chaque chanson. Il est là, il est là, il est là. Il est là.
Mais c'est vrai que le mot sourd que tu as utilisé, il est assez juste, parce que c'est un chagrin, mais comme il est accepté, il n'est pas vécu...
Il n'est pas du tout larmoyant.
Il n'est pas larmoyant, exactement. Parce qu'il est accepté. Peut-être c'est une forme de sagesse. Parce que il y a une phrase qui est dans le morceau Souvenir. Ton absence m'appartient. Et en fait, on sent qu'on a accepté. Peut-être c'est notre âge qui fait qu'on a enfin compris ça. C'est que.
Vous en êtes plein.
On se remplit de nos souvenirs. On se remplit de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a ressenti. Et même si. Il y a des tristesses, on a perdu des êtres chers. Mieux vaut se souvenir simplement des quelques beaux moments qu'on a vécu et de se les rappeler et de s'en inspirer. C'est vrai que ce disque, il est fait de ça. Il est très lié à la nature pour ça, parce que c'est vrai que la nature est comme ça.
Oui, la nature est pleine des réminiscences. Elle est hantée par...
Par des morts, parce que la nature naît de graines, de plantes qui ont elles-mêmes disparu. Et c'est un mouvement infini. Et c'est vrai que dans ce disque, on sent cette vie.
Et pour faire le lien entre la nature et l'homme, il y a le jardin. C'est une image, un symbole qui nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup hanté pendant l'écriture du disque. Parce que le jardin, c'est à la fois quelque chose d'immobile, de suspendu, mais pourtant qui n'arrête pas de grandir et de croître.
Et il est ordonné par l'homme. Le jardin, aussi. C'est la nature avec la main de l'homme et la pensée de l'homme.
Mais la main de l'homme, est juste ce qui est assez beau, c'est que c'est une main d'homme qui accepte l'idée qu'elle peut juste... Elle peut juste ordonner un peu. C'est quand même un jardin.
Mais elle toucherait pas aux saisons et les renaissances
voilà.
Et les morts.
Donc c'est une acceptation du temps qui passe, le jardin. Et y a un truc aussi dans le jardin de suspendu. Pour écrire, je me suis retrouvé à Naples et à Grenade, et à Séville aussi, bref. Mais il y a de très beaux jardins, millénaires, ou au moins centenaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'on traverse des jardins en disant, ils sont comme ça depuis 100 ans. Donc ce sont des images du passé, mais ils sont comme ça, mais c'est pas le même arbre, c'est pas la même fleur, c'est pas le même oiseau. Et c'est ce que vous disiez à propos du flou. Est-ce qu'on est en train de le vivre ou pas? Quand on traverse un jardin, est-ce qu'on traverse ce jardin ou celui de l'époque. Et donc tout ça est en fait ce disque est une sorte de très longue rêverie. On parlait de l'heure de la sieste, mais c'est parce que le moment généralement où reviennent à l'esprit ou aux yeux, en fait, plus aux yeux, les images reviennent du passé qui a été beau et qui a été doux. C'est souvent quand on, ça arrive pas souvent, mais quand on s'allonge à l'heure de la sieste l'après-midi et que les choses remontent comme ça.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux. C'était
étrange. La nuit tombe comme la pluie sur nos têtes nues. Du front à nos joues, voilà qu'elle ruisselle. Tu n'es plus celle que j'ai connue. Tu me dis, je ne te vois plus, ma tendre Amanite. Et où est passée la main de celui à qui j'ai tenu tout le jour? C'est étrange. À la grange, sous la lampe lissée, le poil dressé, des jolis doigts qui couraient pour me bâillonner. C'était quand? Et les temps, nous allions nous rafraîchir. Le long de ta jambe, l'onde s'agite. Tu as le visage troublé. Ma tendre Amanite des champs. Nous attendions là que le soleil descende. Petite magie. C'est étrange. La nuit tombe comme la pluie sur nos têtes nues. Je ne te vois plus.
La seule vraie question que je me pose, c'est ça. C'est-à-dire, ça me renvoie à un questionnement sur ma propre identité. C'est-à-dire, qui suis-je? Et qu'est-ce que c'est que cette langue? Et qu'est-ce que c'est que ce fond mélodique dans lequel je vais piocher? D'où est-ce que ça vient, ça? On se pose toujours ça. Vous recevez aussi des écrivains qui se demandent qu'est-ce que c'est qu'un roman? Qu'est-ce que c'est que la littérature? C'est une particularité strictement européenne de se poser des questions. Et je pense qu'on ne peut pas être français sans se poser des questions auxquelles il est très difficile d'apporter des réponses. Mais qu'est-ce que c'est que cette langue et comment la mettre en forme pour arriver à faire une chanson qui peut rencontrer le public et qui a un certain écho dans ce qui peut se passer dans la société actuellement? C'est ça la question. La seule chose que je vois un peu dans le tunnel, c'est la perte de la mélodie. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la mélodie, presque dans l'inconscient collectif, quand il nous parlait d'identité, je pense que l'identité, c'est la mélodie plus que la langue. C'est-à-dire, c'est la mélodie que peut générer la langue qu'on utilise. Et c'est cette façon de mettre un genou à terre devant une mélodie typiquement française. Et que ça, on ne le fait plus que de façon nostalgique. Et donc, nous qui essayons d'écrire des nouvelles chansons, on est toujours pris pour des nuls ou je ne sais quoi, mais c'est simplement parce que la mélodie s'estompe, ou la mélodie s'efface, ou la mélodie disparaît. C'est pas l'harmonie totalement. C'est la partie la plus, c'est le diamant à l'intérieur de ce qu'on peut appeler l'harmonie. C'est quelque chose de tout à fait simple et bébête, qui est la mélodie. Et c'est ça la question fondamentale qu'on se pose quand on est avec sa guitare ou au piano en essayant de trouver une mélodie. Et donc c'est tout mon énervement, c'est ça. C'est qu'est-ce que le peuple est prêt à recevoir comme mélodie? Et j'ai l'impression que toutes les oreilles sont bouchées et que la mélodie n'est plus d'actualité.
Eh ben, On est en 2012, c'est Jean-Louis Murat au micro de Frédéric Taddeï sur France Culture dans l'émission Tête à Tête. Et il y a beaucoup de choses dans cette archive, donc je vous laisse choisir ce que vous voulez commenter. Chacun se rapproche, se rapproche de son
Je dirais que spontanément, micro. Comme ça...
Arthur Taboul.
Il répétait au début, c'est ça la question.
C'est ça la question. Il ouais, y a beaucoup de choses.
Bah, on n'a pas la même question, je crois. Il y a plein de chansons de Jean-Louis Murat que j'aime, ça n'est pas le propos. Mais en l'écoutant, je me suis dit, ah tiens, c'est marrant. En fait, on ne se pose pas la même question.
Alors
on
fait pour pas vous, la... c'est quoi la question?
Mais il n'y a pas de question pour nous. Il y a une réponse. C'est la seule fois où il y a une réponse.
Dans la musique, vous voulez dire?
Oui, faire
la
une
musique,
chanson pour nous, ce n'est pas une question. C'est une réponse. Tout le temps, enfin, c'est mon point de vue. C'est-à-dire, parce qu'il y a Sébastien à côté qui
se lève de sa
chaise. Je comprends pas, mais...
Je vais t'expliquer. Ouais. Il se demande, mais qu'est-ce que l'identité?
Qu'est-ce que la langue française?
Qu'est-ce que la langue? Qu'est-ce qu'une chanson? Nous, c'est ailleurs qu'on a une angoisse, disons. C'est quand on n'a pas... C'est quand on n'a pas... Je sais pas comment expliquer ça... Trouver quelque chose, une phrase, un vers qui sonne, une mélodie, un bout de chanson, ça nous soulage. C'est le seul moment où on est désangoissé. Pour trouver cette chose-là, on ne se pose qu'une seule question.
Ah,
c'est là
même.
Que je dirais qu'on n'a pas la même question. C'est pas du tout celle de l'identité, de l'adéquation, de la congruence. C'est celle du plaisir. Un moment où, en fait, c'est très mystique. C'est que de la magie. C'est un moment où il faut ramasser des cailloux tous les jours, il faut écrire des phrases tous les jours, il faut frotter des cailloux ensemble tous les jours, et puis il y a un moment, il y en a un qui vous émeut, il y a un son de clavier qui vous émeut, il y a une phrase que vous avez trouvée qui répond à quelque chose en vous d'inexplicable. On ne cherche pas à l'expliquer, on cherche juste à recueillir ce moment où ça vous ressemble et ça résonne. Pour ça qu'en lisant un poème très, très beau, par exemple... qui ne cherche pas à s'adresser, parce que je reprends encore ce que dit Jean-Louis, qui ne cherche pas à s'adresser au peuple, qui ne cherche à s'adresser à personne, cherche l'intime. Nous, on croit ça, voilà. Il y a une chose dans laquelle on croit, c'est que plus une chose est singulière et intime, plus en fait elle est universelle. On croit à ça parce qu'on l'a vécu en lisant des poèmes d'Apollinaire, en écoutant des chansons obscures, qu'à chaque fois que quelqu'un essaye de se mettre le plus à nu possible, de raconter quelque chose qui a l'air de rien, le code d'une porte, à laquelle il y a une adresse à laquelle il aurait vécu il y a 20 ans, on pourrait dire que ça n'a pas d'intérêt pour moi. Pourtant, comment ce code arrive dans un texte, ça devient émouvant comme si on avait tapé 150 fois ce code et que la porte s'était ouverte aussi.
Sébastien Wolf, c'est quoi la question ?
Non, je pense que ce que je suis d'accord avec Arthur, c'est vrai que le guide suprême, si on pouvait utiliser ce terme pour nous, c'est nos émotions, nos sentiments, et quand on écrit des mélodies, des textes, nos chansons, on se laisse guider par le fil d'une bobine qu'on tire pendant parfois juste 10 minutes et la chanson naît, ou pendant des mois et des mois jusqu'à qu'elle soit sur le disque. Et c'est vrai que je sais pas, après moi, sur ce qu'on a écouté, je pense qu'il y a beaucoup d'amertume dans ce qu'il dit. Et c'est plutôt ça que je retiendrai. C'est vraiment le discours de quelqu'un qui est amer face à la non-compréhension que peut avoir le public de la chanson française ces dernières années. Et là-dessus, je suis pas d'accord. Je pense que...
Et vous êtes peut-être pas au même endroit.
On n'est pas au même endroit, c'est sûr, mais on fait une musique qui peut s'apparenter, disons. Par plein d'aspects. Et moi, je pense que il y a énormément de gens qui sont encore sensibles à des belles mélodies, des beaux textes, à la musicalité de la langue française. Et le hip-hop en est franchement la meilleure expression. Donc les jeunes aujourd'hui écoutent de la chanson française. C'est de la chanson française, le hip-hop. Et c'est vrai que aujourd'hui, peut-être pour des artistes, disons plus anciens, comme Jean-Louis Murat, il peut y avoir une forme de difficulté à exister au sein de cette communauté-là. Et c'est vrai que c'est dommage parce que il se confronte, enfin il finit par en parlant du peuple. Enfin c'est bizarre. C'est les gens, ils sont juste touchés par des émotions et, comme disait Arthur, par des choses très simples. Et ils continuent à l'être. Ils écoutent encore énormément de musique en français. Par exemple, on a sorti la chanson Souvenir. C'est une chanson qui, a priori, peut paraître très ancienne, un peu classique. Et on s'est laissé un peu guider par notre intuition. C'est le premier titre qu'on a sorti, mais c'est pas le titre qui peut paraître le plus évident, le plus simpliste qu'on aurait pu sortir du disque. Et bizarrement, c'est celui qui touche le plus de gens en ce moment. On le sent, on voit en termes, c'est des chiffres un peu absurdes, mais c'est les likes, les choses comme ça, les vues. Et on les gens sont encore sensibles à des émotions, à des mélodies dans la langue française et à la chanson française en général. Alors oui, peut-être que la musicalité a changé, les gens recherchent une nouvelle forme de musicalité. Je pense que là où il a raison, c'est qu'effectivement, il y a une sorte d'analyse un peu ethnologique, j'ai l'impression, il y a une forme d'identité des peuples dans la musicalité de leur langue. C'est vrai, moi je suis à moitié brésilien par exemple, et dans la langue brésilienne, le portugais du Brésil a une musicalité très particulière et qui définit l'identité brésilienne, c'est sûr, et la musique brésilienne en général. Et dans la langue française, c'est pareil. La poésie, la chanson française et le rap aujourd'hui définissent ce qu'est la France aujourd'hui, c'est vrai. Et donc là-dessus, il est assez juste. Mais c'est dommage, je trouve que l'amertume qui met derrière tout ça est assez triste.
L'autre jour, on était avec Brassens et Brel. On discutait et on demandait à Brassens, bah, enfin, vous avez de l'argent, vous gagnez de l'argent. Et Brassens a dit, eh bien, évidemment, de toute façon, nous n'exploitons personne, n'est-ce pas? L'argent que nous gagnons, c'est toujours, la plupart du temps, un cadeau qu'on nous fait. C'est-à-dire que les gens, vous savez que nous sommes des gens, des gens publics. Bon, les gens rentrent dans un théâtre, ils payent, ils donnent de l'argent pour venir nous voir d'abord, avant de nous entendre chanter. Une des raisons pour lesquelles on nous dit que nous sommes des gens publics. Vous savez, moi, quand il m'arrive de rencontrer dans la rue des filles dites publiques, eh bien, elles me font jamais l'article quand elles m'ont reconnu. Alors j'ai longtemps cherché la raison et j'ai compris, c'est que je fais un peu le même métier qu'elles, n'est-ce pas? Et Brel a été d'accord avec moi, il m'a dit, oui, et souvent ce sont des artistes et nous sommes des putains. Parce qu'au fond, je crois qu'il y a un pas à passer pour les femmes. C'est une chose grave, moi ça me regarde pas. Les femmes comme ça vendent leur corps, mais nous, qu'est-ce que nous vendons? Nous vendons une partie de notre corps, c'est-à-dire d'abord la voix, n'est-ce pas? Et puis nous nous montrons.
Et puis nous nous montrons, dit Léo Ferré, cette fois c'est une archive de 1969, on remonte. Léo Ferré qui dit que non seulement il vend sa voix, mais il vend ce qu'on voit. Vous avez tout à l'heure parlé de vision, Arthur Teboul. Comment est-ce que vous vivez? On n'a pas du tout parlé pour l'instant de la scène, alors que c'est un aspect de votre art, de la manière dont vous faites de la musique depuis plusieurs années, qui est extrêmement important. Comment vous vivez le fait qu'on paye de l'argent pour venir vous voir et vous écouter?
Mais enfin, justement, moi, je n'ai pas du tout aimé le verbe vendre. Parce que...
Ah oui, mais pourtant, on vend des tickets pour venir vous voir.
Non, mais d'accord, mais c'est juste qu'il y a... On vend ce qu'on voit. Le problème, c'est qu'on on entend ça. Ça va plus loin. C'est-à-dire que ce qu'il pourrait dire, c'est que lui, il a des visions. Un poète, ça voit des choses plus que les autres, et ça le retranscrit sur un papier ou ça le chante. Et ça serait, il vendrait sa vision du monde. C'est ça, en fait, qu'il dit. Hein, quand même.
Il dit qu'il vend sa voix. Non, qui vend ce qu'on voit. Alors c'est marrant.
Alors il y a la scène aussi.
Ouais,
et la scène, ça va avec.
Pensez à la vision du poète. Je pense qu'il va pas jusque là, Léo Ferré, à mon avis. Il dit juste comment il se présente au monde sur une scène et que il vend la possibilité d'être vu. Moi, c'est ça que j'entends plutôt dans cette archive.
Après, sur le, enfin, après tu pourras répondre, mais c'est vrai que le fait de payer pour aller voir des artistes sur scène, je trouve ça normal entre guillemets, parce qu'on est dans un système où capitaliste, où il y a des gens, énormément de gens qui travaillent avec nous, hein. On n'est pas tout seul, ça c'est quand même très important de le dire. Il y a des gens qui sont là derrière, qui travaillent avec nous, il y en a qui seront tout à l'heure, enfin qui étaient tout à l'heure qui étaient au concert, il y a plein de techniciens, donc c'est des gens qui ont besoin d'être payés, donc c'est normal qu'on paye pour aller voir un concert. Après, effectivement, peut-être il y a des fois où les concerts sont très chers. On essaye, nous, de faire attention.
C'est marrant parce que vous avez une manière de répondre à cette archive hyper, hyper pragmatique, mais vous avez raison, c'est pas du tout à ça qu'on pensait en vous faisant écouter. On pensait plutôt vous interroger sur la manière dont vous vous sentez, en fait, sur scène, et qu'est-ce que c'est que de chanter devant des gens, de se montrer. Mais en même temps.
Mais là, c'est pas de ça qu'il parle. Il parle pas de ça. Parce que je trouve, moi, ce que j'entends surtout, c'est, il parle
d'abord. C'est le rapport à l'argent.
Il y a une forme de rapport à l'argent et de rapport à, il compare quand même à la prostitution. Enfin, c'est quand même assez lourd. Donc il compare ça à un échange monétaire. C'est quand même ça l'essentiel de l'archive. Donc je suis d'accord. Après, on peut parler de la scène et de ce qu'on ressent, mais je trouve que ça va un peu loin quand même sur ce que c'est. Nous, quand on est sur scène, on se donne. Alors je sais pas, t'en penses quoi?
Ça n'a pas l'air de vous plaire,
moi,
en tout cas, cette idée-là.
Moi, ce que j'en pense, aussi parce que j'aime beaucoup Léo Ferré, je connais un peu son son style. J'en pense que il flagorne un peu là quand il dit ça, que c'est une manière encore de faire de la poésie et de jouer avec son statut et son rôle.
D'ailleurs, il parle de fille publique, donc il va aussi sur un terrain très engagé.
Oui, et puis regardez bien, on a écouté plusieurs extraits de différentes personnes qui développaient une pensée instantanée, disons. Travailler ma... Là, c'est de la punchline, en fait. Il a travaillé son truc. C'est beau. Moi, ça qui me touche, c'est que j'aime... C'est ça qui me... En fait, c'est pas ça qui me touche, ça qui me corrompt. C'est que je me fais toujours avoir par les poètes, même quand je pense pas ce qu'ils les chansonnaient, même quand je suis pas d'accord avec eux, parce que s'ils le disent d'une belle manière, je me dis, ah, il a trouvé la formule. Et là, quand il dit... Oui, quand je parle aux filles publiques, je me rends compte qu'elles ne veulent pas de moi, parce que moi, je suis un homme public, en fait, donc tout de suite, il y a cette égalité. Et je discutais avec Brel, qui me dit, mais d'ailleurs, ce sont elles les artistes, nous les putains. Il a gagné, mais c'est de l'attitude, en fait. C'est ce que j'adore chez Ferré, mais c'est aussi ce que j'aime le moins chez lui par rapport à Brassens, par exemple. Bon, en fait, du coup, moi, je m'intéresse moins au fond. C'est-à-dire, quand il dit ça...
On voit bien la différence.
Quand il dit ça, je sais qu'il ne le pense pas vraiment, peut-être parce que je suis chanteur. Et je sais que quand il dit ça, en fait, il essaie de régler un paradoxe qu'il a lui-même. Il devance le coup qu'on va lui mettre.
Il sait qu'il serait.
Et qu'il serait, en fait, au fond, lui, il fait ça parce qu'il peut pas faire autrement qu'aller chanter sur scène. Et qu'une fois qu'il a eu ses visions, comme disait Seb, ou une fois qu'il a chanté quelque chose. Et même, en fait, c'est l'amertume de Mural doit être là. C'est qu'une fois qu'il a fait une chanson, et ça, c'est le côté orgueilleux du poète, c'est un échange. Il faut être honnête. Tu veux qu'une chose, c'est que le monde entier ressente la même émotion que tu as ressentie et la partage. Et lui, il le sait. Parce que c'est pas des derniers hein, en termes d'orgueil. Mais toujours l'orgueil, c'est les gens qui sont très, très, très orgueilleux. En fait, c'est les gens qui manquent de confiance en eux. Il y a ce balancier très, très sûr qui est à l'artiste toujours. Moi, la scène, je la vis comme ça, comme un grand paradoxe, comme une joie et une douleur tout en même temps. Parce que c'est le moment où je veux être le au-dessus de moi-même. La grâce à chaque seconde, plus beau que moi-même, plus haut que moi-même, que les gens nous aiment et qu'ils comprennent exactement chaque seconde ce qu'on raconte. Parce que, il aurait dû dire ça, Léo Ferré. Mais non, il a préféré dire, oulala, ça va se voir que c'est ça que je veux. Et comme ça va se voir, je vais dire le contraire. Moi, je suis là pour me vendre. En fait, après tout. Non, c'est une note pour lui-même. Se rappeler à lui-même, attention, mon gars, tu veux vivre après ta mort? Tu veux durer, tu penses atteindre les cimes, tu fais que vendre ta voix. Et d'ailleurs, ta voix, à 50 ans, elle est jolie. Dans 20 ans, elle ne vaudra plus rien, parce que tu seras vieux. Et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai de la tendresse pour son discours et je ne le prends pas au premier degré.
Merci beaucoup, Sébastien Wolf. Arthur Teboul, d'être passé par ici ce soir. Votre disque s'appelle L'Oiseleur. Il est très, très beau. On mettra les dates de tournée sur le site internet.
Merci.
Rien à voir, mais passionnément, ne rien se dire éperdument, mais se donner avec qui le reste.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui ne vous fait plus rire?
Le sarcasme.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui n'en finit pas de vous étonner?
La bêtise.
Ouais, c'est vrai, ouais, la bêtise.
Et par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous manque?
L'amour.
Ouais, non. Je suis d'accord.
Non, ça va, c'était comme ça. Bon, non, là.
Non, mais si, c'est
en
bien.
Plus, c'est pas ça, je pense pas. Il manque la satisfaction.
Et où
le temps.
Et par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h, mais pas avec moi, avec Romain Debec de Lièvre. Ce soir au son, c'était Éric Boisset à la réalisation, Lise-Marie Barré. On peut aussi s'écouter et se parler via franceculture.fr ou en vous abonnant au podcast. Jeanne Aléos, Corinne Amar, Romain Debec de Lièvre m'aident à penser cette émission. Et quant à moi, je réponds @MarieRichaud sur Twitter.
Et pour ce jardin qui ferait vivre, vivre passionnément et ne se battre seulement qu'avec les feux de la tendresse. Et riche de dépossession, n'avoir que sa vérité, posséder toutes les richesses. Ne plus parler de poésie, ne plus parler de poésie, mais laisser vivre les fleurs sauvages et faire jouer la transparence au fond d'une cour au mur gris. Où l'aube aurait enfin sa chance.